La préfète d'Eure-et-Loir, Fadela Benrabia, a donné vendredi dernier les premières précisions sur le déploiement de la campagne de vaccination en Eure-et-Loir, une campagne qui a commencé mercredi 6 janvier dans le département. 150 personnes ont été vaccinées en 48 heures après celui de l'hôpital de Chartres. 3 nouveaux centres vont ouvrir. Le point sur la situation sanitaire et sur cette campagne de vaccination qui commence avec Fadela Benrabia, préfète d'Eure-et-Loir.
Une démarche progressive et pas dans la précipitation. C'est important que chacun comprenne ça. Progressive pour s'occuper d'abord des professionnels qui allaient, eux, vacciner les populations, et les populations qui étaient les premières cibles sont les populations les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est celles qui ont pâti de la première phase de l'épidémie. Ce sont principalement des personnels, des résidents des EHPAD, qui, dans le département d'Eure-et-Loir, ont payé un lourd tribut, puisque je vous rappelle qu'on a eu un nombre de décès très important, et en tout cas le plus grand nombre dans la région Centre-Val de Loire. Donc, d'abord s'occuper des populations qui sont dans des établissements collectifs, donc les EHPAD, mais aussi les centres qui accueillent des handicapés, mais aussi les personnes, les résidents qui sont accueillis dans les maisons de retraite et même qui sont dans les maisons d'autonomie. Voilà, ça c'est la première cible. Les professionnels, je l'ai indiqué, tous les professionnels de santé, et même si dans les hôpitaux, les professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé en tant que tels, mais qui sont des professionnels qui travaillent et qui agissent dans les établissements de santé ou dans des structures de santé. Par exemple, le personnel technique et administratif d'un hôpital est prioritaire dans cette démarche également.
Est-ce qu'il y a une forme d'obligation vis-à-vis des personnels hospitaliers ?
Non, la règle en France, comme vous le savez, c'est le volontariat. Donc, il est proposé de vacciner toutes ces populations prioritaires, ces cibles d'une certaine façon, c'est pas terrible de l'indiquer comme ça, mais ces populations prioritaires, et de leur proposer le vaccin. Beaucoup vont accepter hein, et s'engagent tout doucement. Nous avons commencé déjà à Chartres, où les professionnels de santé ont commencé à s'engager dans la vaccination, puisque nous avons commencé les vaccinations depuis mardi.
Alors, au départ, il était prévu d'ailleurs de vacciner les plus de 85 ans, et puis finalement, ça a été un peu simplifié, de sorte qu'on est aujourd'hui les 75 ans, enfin, les plus de 75 ans peuvent tous être vaccinés.
Oui, c'est-à-dire que le gouvernement, vous avez le Premier ministre a annoncé la nécessité d'amplifier, d'accélérer, mais aussi pour amplifier, accélérer, un peu simplifier les processus d'organisation et la logistique et l'approvisionnement aussi, accélérer l'approvisionnement des structures en vaccins. Donc cette organisation est très logistique, hein, finalement, a été plutôt réussi et nous laisse escompter qu'on peut, plutôt que d'attendre le mois prochain pour engager la vaccination des plus de 75 ans, de commencer tout de suite par les plus de 75 ans, assez rapidement. Et donc, à partir de la semaine prochaine, nous devrions pouvoir commencer les plus de 75 ans. Dans la population générale, c'est-à-dire que ce ne sont pas, c'est toutes les personnes qui vivent, qu'elles soient dans les établissements, ça c'est évidemment, mais également chez elles, tout simplement.
Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de mois qu'il faudra pour vacciner tous ceux qui le souhaitent ?
Je pense que ça, c'est colossal, bien sûr, et puis ça va s'étaler jusque minimum l'été, au moins l'été, mais je pense que pour la rentrée prochaine. Voilà, on va essayer de faire au mieux pour que, à l'été, une grande partie de la population soit vaccinée. En tout cas, une grande partie des volontaires soient vaccinés. En tout cas, le maximum, tous les volontaires soient vaccinés.
L'approvisionnement se fera normalement. On ne va pas manquer de vaccins ?
Non, on ne manquera pas de vaccins. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne réserve pas de vaccins pour la deuxième. Vous savez que le vaccin s'administre en deux temps. Une première fois et une fois à l'issue des 21 jours. Eh bien là, on vaccine avec toutes les doses dont on dispose et on y va avec toutes les doses et on approvisionne au maximum. Et puis, au fil de l'eau, Seront acheminés les vaccins. Il n'y a pas de difficulté et nous n'aurons aucune difficulté à nous approvisionner.
Pour l'instant, donc, un centre de vaccination, c'est l'hôpital de Chartres. Mais enfin, dans les heures à venir, presque, il y aura d'autres centres, à Dreux notamment.
Alors, le premier centre de vaccination a été mis en place à l'hôpital de Chartres, qui est l'hôpital support, qui va être en gros notre centre logistique d'approvisionnement. Il a été mis en place pour la vaccination des professionnels de Chartres, mais aussi des alentours, mais des professionnels de santé, mais aussi des aides à domicile, mais aussi des professionnels qui travaillent dans les structures de handicap. Et dès demain, c'est-à-dire samedi, s'ouvre un nouveau centre, un deuxième centre de vaccination qui se situera à Dreux. Et dès lundi, ouvriront deux nouveaux centres, un à l'hôpital à proximité, aux abords de l'hôpital de Châteaudun, et l'autre, celui de Nogent-le-Rotrou.
Alors, on ne manque pas de vaccins, on ne manquera pas de vaccins. Cependant, en Eure-et-Loire, notre problème, on le sait bien, c'est le manque de médecins. Est-ce que ça va mettre en difficulté le processus ?
Alors, aucun département n'est égal vis-à-vis du nombre de médecins, du nombre d'infirmières, du nombre d'équipements sanitaires, de santé. Vous l'avez vu, c'est ce qui caractérise un peu aujourd'hui notre département. C'est la démographie, le désert un peu médical. Voilà, le désert médical. Ce désert médical va nous obliger à monter en charge dans le dispositif et à faire monter en charge notre dispositif de vaccination en tenant compte des ressources disponibles. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne va pas ouvrir des centres partout. On va veiller d'abord à disposer de la ressource. Vous avez des médecins libéraux qui vont être le cœur du pilier, qui vont être le pilier de la vaccination. Et nous allons organiser et appeler à contribution les personnels qui ont pris leur retraite, qu'ils soient infirmiers, qu'ils aient été sages-femmes, tout le personnel de santé qui est et des médecins qui déjà se mobilisent pour nous proposer leurs services.
Alors, il y a une cellule départementale qui s'est mise en place. Là encore, ça va être un travail assez monumental parce qu'il faut que tout s'articule bien entre les services de l'État, entre l'ARS, mais aussi les mairies, le département, etc.
Oui. Alors d'abord, on a constitué une task force d'une certaine façon, on peut appeler ça comme ça. J'ai souhaité tout de suite être dans la prolongation et dans le prolongement de ce qu'on avait engagé lors de la première phase, c'est-à-dire une bonne coordination des services et des institutions avec les collectivités, qu'il s'agisse des services de l'État, que ce soit l'ARS aussi, la CEPAM, le conseil départemental, la préfecture et les collectivités, de telle façon à ce que nous ayant appris et pris l'habitude ensemble de gérer la crise, nous continuons ensemble à déployer le dispositif. Donc cette cellule départementale a vocation à intégrer, à informer les élus et aussi échanger avec des professionnels de santé, des directeurs de centres hospitaliers sur la pertinence et l'efficacité de notre dispositif en Eure-et-Loire. Donc on va la tenir régulièrement toutes les semaines et on tiendra à côté en effet une réunion d'information des collectivités et des élus puisqu'elles vont être elles-mêmes, elles vont rapidement et elles sont volontaires rapidement être au centre du dispositif puisqu'elles vont informer et probablement dans un temps un peu plus éloigné accueillir elles-mêmes des centres de vaccination.
C'était Fadela Benrabia, préfète d'Eure-et-Loire, parmi les principaux partenaires des services de l'État pour cette campagne de vaccination qui commence en Eure-et-Loire, l'Agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire. Nous avons interrogé son délégué départemental pour l'Eure-et-Loire, Denis Jolez. Denis Jolez, peut-être, avant de parler de la vaccination, peut-être un point sur la situation sanitaire. On en est où en Eure-et-Loire sur le taux d'incidence, le taux de dépistage et les hospitalisations, bien sûr.
Voilà. Et alors donc, on est plutôt dans une situation assez stable depuis fin décembre, puisqu'on a un taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant le Covid positive sur 100 000 habitants, qui est de l'ordre de 102 à 105 donc personnes pour 100 000 habitants. On a un taux de positivité, c'est-à-dire un pourcentage de personnes donc positives qui est aux alentours de 5%. Et ces deux chiffres-là sont largement inférieurs à ce qu'on a connu avant Noël. hein, puisqu'on était monté sur des chiffres en taux de positivité de l'ordre de 12% et des taux d'incidence largement plus élevés. L'autre bonne nouvelle, c'est que, touchons du bois, nous avons un nombre de personnes hospitalisées un peu moindre, on est à peu près à 84 aujourd'hui, et puis également un nombre de personnes en réanimation de 14 personnes en réanimation, et là encore, c'est des chiffres plus favorables que ce qu'on a connu avant Noël. Donc voilà, on est plutôt sur un plateau, mais on est très vigilant parce que ce qui est à surveiller, c'est l'éventuel rebond par rapport aux rapprochements de population qui ont eu lieu pendant les fêtes. Et donc, on va regarder ça avec attention dans les 10 jours qui viennent.
D'autant qu'on a un voisin ou quasi-voisin, le Cher, qui, lui, connaît une situation sanitaire autrement préoccupante pour l'instant.
Oui, alors voilà, nos collègues du département du Cher surveillent la situation. Ils sont maintenant à environ 200 de taux d'incidence. Ce qui fait que d'ailleurs ils risquent de passer en couvre-feu à 18h. Et ils sont, avec des taux importants depuis début décembre. Donc voilà, et sans qu'il y ait d'explication particulière sur ce département par rapport à ses voisins. Hein, le Loiret a longtemps été élevé, mais effectivement le département du Cher n'est pas verni pour l'instant.
Alors la vaccination, donc pour l'instant c'est un vaccin qui est disponible, il y en aura un autre bientôt sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le vaccin en fait?
Alors effectivement, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech, hein, c'est son nom exact, qui a une technique particulière puisqu'il utilise la technique de l'ARN messager. Il a une contrainte de conservation puisqu'il faut le conserver, il est conservé entre la production et l'acheminement à moins 80 degrés. Et ensuite, progressivement, il est décongelé pour arriver dans des réfrigérateurs ordinaires, on va dire, conservés entre 2 et 8 degrés. Et ensuite, il est donc transféré là où doit avoir lieu la vaccination. Donc, ce vaccin, bien entendu, il est efficace. Il procure très peu d'effets secondaires, y compris d'ailleurs des réactions allergisantes. Il est pour l'instant, inoculé en 2 injections distinctes. En revanche, compte tenu de sa particularité de sa conservation au froid, l'extrême froid même 80, il génère des contraintes de transport et d'administration derrière. Donc il faut bien calculer finalement à la fois le respect de la chaîne du froid pour tomber le jour J pile au moment de la vaccination chez la personne.
Pour les vaccinations, donc, premièrement, les personnes donc, dans les EHPAD, bien sûr, les personnes de plus de 75 ans, les personnels de santé qui ont donc tout ça a déjà commencé. Combien de personnes actuellement au total vaccinées en Eure-et-Loir?
Alors, il faut bien serrer les choses. Il est ciblé, hein, de par les recommandations de la Haute Autorité de Santé, effectivement, les personnes âgées, qui sont d'abord accueillis en résidence type EHPAD, et puis les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités. À cette liste s'ajoutent les personnes handicapées, vieillissantes, et puis très récemment, donc, les personnes exerçant en service de soins à domicile, en service de soins infirmiers à domicile, puis les pompiers, et puis maintenant, effectivement, les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de résidence, et puis, vous l'avez dit, les personnes âgées qui ont simplement plus de 75 ans, et cela dès la fin du mois. Et donc, les différentes cibles qui vont être visées par ce vaccin. Et donc, nous nous organisons pour mettre en place, hein, par exemple, des centres de vaccination plus près de la population pour honorer ces personnes.
Alors, pour l'instant, donc, ça se passe à Chartres, bientôt à Dreux. Les hôpitaux, donc les autres hôpitaux du département seront mis à contribution, mais il sera probablement nécessaire de décentraliser, hein, la vaccination.
Absolument. Alors, là encore, les premières initiatives donc ont été de créer des centres de vaccination proches des hôpitaux. Mais bien entendu, pour couvrir et pour aller vers l'ensemble des populations cibles décrites précédemment, eh bien, il faut tout de suite penser à imaginer d'autres centres de vaccination. Et ça, nous allons le faire par le biais de discussions entre, bien entendu, les institutions, l'ARS notamment, mais aussi les professionnels de santé, hein, qui sont vaccinateurs, les professionnels de santé, par exemple qui travaillent au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, mais également les collectivités territoriales, les élus, parce que l'idée, c'est tout simplement d'avoir un centre de vaccination pas très loin de la population, hein, de façon à ce que la personne n'ait pas à faire des kilomètres pour aller se faire vacciner. Donc on est en train de travailler cela. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai citées seront autour de la table pour voir quelle est la meilleure optique, la meilleure option, hein, pour pouvoir servir la population.
Merci, monsieur Jolès. On sera amené à se voir, évidemment, très prochainement, puisque tout ça, c'est un processus, hein, et un processus qui a réajusté régulièrement.
Voilà. Nous sommes dans un processus parfaitement évolutif, et on l'a vu sur la dernière semaine, puisqu'on a eu à la fois, la certification du bon acheminement des vaccins, et puis l'élargissement des cibles dite populationnelle. Donc, bien entendu, le dispositif va évoluer, et notamment par rapport à ces centres de vaccination. Hein, donc, c'est évolutif. Les mots à retenir, hein, c'est les mots adaptabilité, fiabilité, et aussi sécurité. Sécurité, bien entendu, de tout le circuit, hein, chaîne du froid, etc. Sécurité d'administration, et puis également sécurité logistique, hein, bien entendu, puisqu'il s'agit de vaccins, donc il ne faut pas faire n'importe quoi.
Et puis la communication auprès de la population. Et ça, c'est aussi c'est une partie très importante. Hein. Si j'ai 75 ans, par exemple, que dois-je faire pour être vacciné ?
Voilà. Donc, bien entendu, on travaillera ce sujet. L'idée, c'est de donner des informations simples, claires et donc compréhensibles par la population. Et donc, on dira, vous avez tel âge, eh bien, vous pouvez aller dans tel centre de vaccination, sur tel créneau horaire, et puis dans quelles conditions, selon quelles modalités. Voilà, on sait que, par exemple, l'assurance maladie produira des bons de prise en charge qui seront adressés directement à chacune des personnes individuellement. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de très positif, puisque la personne sera informée, dans ce cas-là, directement. Mais bien sûr, il y aura des informations, notamment par le biais des médias, hein, et relayées également sur les sites des institutions différentes, comme l'ARS, la préfecture, la Caisse primaire d'assurance maladie.
C'était Denis Jolès, délégué départemental de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, pour notre département d'Eure-et-Loire.
On fumait des gauloises bleues, la la la, les beaux jours. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux, la la la, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'Aisne, parfois je voyais Verlaine, la la la, les beaux jours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Oh, les beaux jours. Dylan cultivait sa terre quelque part en Angleterre, la la la, les beaux jours. Jefferson Airplane s'installait à la présidence car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutiques à musical au boulevard du rock'n'roll, la la la, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuit et les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues Clichy. Oh, les beaux jours. Oh, les beaux jours. Boris inventait le jazz tous les soirs au bal des Lazes, la la la, les beaux jours. Et sa trompinette mettait le feu aux lampions, Duke Ellington arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux, la la la, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison.
Et oui, vous aurez reconnu Yves Simon, les Gauloises Bleues, fumées avec beaucoup, beaucoup de modération. Le pôle de compétitivité Cosmétique Valais a accueilli jeudi la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, une visite ministérielle qui, dans le contexte du plan de relance économique enclenché par le gouvernement, se voulait un hommage à une filière d'excellence qui entre pour beaucoup dans l'excédent du commerce extérieur de la France. Agnès Pannier-Runacher.
La première chose, c'est que la filière de la cosmétique, c'est une filière d'excellence. C'est une filière qui peut se prévaloir effectivement d'avoir le deuxième excédent commercial, ce qui n'est pas rien. C'est une filière qui emploie 250 000 salariés, alors 243 000 si on est précis, mais moi je compte sur la progression de cet emploi. 250 000 salariés, et pour donner quelques idées, l'automobile en production c'est 400 000 salariés, l'aéronautique c'est 300 000 salariés. Donc ce n'est pas rien, 250 000 salariés qui sont embarqués dans cette filière. C'est également une filière qui peut se prévaloir d'être leader mondial, et pas leader mondial parmi cinq, mais leader mondial numéro un, avec une part de marché internationale qui ferait pâlir d'envie un certain nombre d'autres filières, puisque vous avez mentionné le chiffre de 20%. Et l'objectif, c'est de conserver cette part de marché mondial et de montrer que même dans ce moment particulier qu'est la crise, il y a des développements qui se font, il y a des investissements, il y a des transformations, et finalement on est exactement au cœur de ce que nous voulons porter dans le plan de relance. Je veux aussi avoir un mot quand même pour les équipes qui se sont impliquées, on s'est beaucoup parlé pendant la période du confinement, qui se sont impliquées à tous les étages dans cette filière pour démarrer des productions de gel hydroalcoolique, et pour le faire d'ailleurs en règle générale à titre gratuit ou de manière très bénévoles, avec des salariés qui n'ont pas accepté de quitter leur poste de travail considérant qu'ils avaient une mission supérieure, même s'ils étaient potentiellement inquiets pour leur santé, pour les conditions sanitaires, mais parce qu'ils voulaient contribuer à cet effort collectif sur lequel les soignants nous montraient la voie. Et je crois que c'est quelque chose qui a été extrêmement bien vécu et perçu par les soignants, mais également par les services de l'État, et qui a créé une forme de solidarité à un moment que nous voudrions prolonger dans cette relance et ce rebond sur lequel nous travaillons. Alors le plan de relance pour l'industrie, c'est 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, c'est un choix politique de faire de l'industrie un élément central de ce plan de relance. Et cela s'explique parce que c'est dans l'industrie que nous allons inventer les solutions de la transition écologique et énergétique. J'ai l'habitude de dire que l'industrie, c'est 20% des problèmes, 20% des émissions carbone, c'est 100% des solutions. C'est dans l'industrie qu'on invente la décarbonation des processus industriels, qu'on invente la décarbonation de l'agriculture, qu'on invente la décarbonation des mobilités, le moteur à hydrogène, le moteur électrique. C'est dans l'industrie que ça s'invente et que ça se développe et que ça se produit. Et si nous voulons être à la hauteur de ces enjeux, alors il va falloir mettre la démultiplier, si vous me permettez cette image, dans notre tissu industriel. On le sait aussi, c'est dans l'industrie que se réalise l'essentiel de nos exportations et l'essentiel de nos innovations. C'est plus des deux tiers des exportations et des innovations et des dépôts de brevets en France. Et donc nous voulons que l'industrie continue à investir, continue à prendre des risques, parce que nous sommes dans un moment de transformation profonde. Certes, il y a la crise sanitaire et une crise économique, mais il y a aussi des transformations que vous avez citées, numériques, des transformations écologiques, qui s'apparentent, toutes choses égales par ailleurs, à quelque chose comme la révolution industrielle au XIXe siècle. Ça, ce sont des tendances de fond, avec une compétition économique qui est encore plus accusée et forte qu'avant l'entrée dans la crise. Et notre enjeu, c'est tirer notre épingle du jeu. Et pour ce faire, L'État doit absolument travailler main dans la main avec les entreprises de toutes les tailles, mais elle doit aussi amener les entreprises à raisonner en écosystème, à raisonner avec des démarches de solidarité. J'ai signalé ou cité ce terme au début de mon propos. Des démarches de solidarité parce que, vous l'avez dit, donneurs d'ordre et sous-traitants fonctionnent ensemble, main dans la main. Il faut que les sous-traitants soient innovants, il faut qu'ils soient constamment dans l'investissement, mais il faut qu'on leur donne de la visibilité et qu'on leur donne du temps long et qu'on leur donne de la stabilité pour qu'ils puissent investir.
Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, a visité les laboratoires Expanscience à Épernon, qui fabrique du Mustela et fête cette année leurs 70 ans, puis l'usine Alban Muller à Fontenay-sur-Eure, enfin l'immense site Guerlain, fleuron du jardin d'entreprise de la ville de Chartres. Cette édition chartraine d'Écho de ma commune et de mon canton s'achève. Je vous retrouve dans 4 semaines. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Grand Ciel, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.
Monsieur Lister Young, si une bombe atomique tombait sur New York, que feriez-vous ? Je briserais la vitrine de chez Tiffany et je piquerais tous les bijoux. Monsieur Grégory Corso, qu'est-ce que la puissance ? Rester debout au coin d'une rue et n'attendre personne. Bonjour Monsieur Hendrix, je suis du New York Times. Salut, moi je suis de la planète Mars. J'ai rêvé New York, New York, New York City se résonne. J'ai rêvé New York, New York, New York. New York City serait un
Babylone, tu te shoot et tu rêves. Babylone, tu fumes trop et tu crèves. Babylone, tu exploseras sur un graffiti de New York. Quand il pleut des cordes,
roulant Ford,
si tu veux faire Mac,
roulant Cadillac,
si tu veux faire chic,
roulant Buick, roulant Chrysler.
J'ai rêvé New York, New York, New York, New York City serait ça. J'ai rêvé New York, New York, New York, New York City serait ça.
Nous étions arrivés balancés par des filins d'acier. Du haut de nos chevaux, nous regardions les fumées. De l'asphalte, des morceaux de pneus, de la gomme et des souliers. J'ai dit, nous détacherons les ponts de cette cité pour qu'elle puisse s'envoler. Qu'il n'y ait plus de sang, de sueur, ni de larmes. Seulement le silence, coincé entre mon rêve
et deux océans.
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City, c'est vrai ça. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City, c'est vrai ça. J'ai rêvé.